Mercedes-Benz.
C'est bien connu. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée, espérer que le temps soit clair et idéalement être équipé d'un télescope. Sauf du 1er au 30 juin chez Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour et à l'œil nu. Pendant les Star Days, profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Ne laissez pas filer votre future étoile. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days, journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Chaque seconde de bourse est un morceau d'avenir qui s'ignore, un morceau d'avenir auquel les marchés choisissent de donner sa chance ou pas. En achetant ou en vendant tel ou tel titre, vous dessinez une part du destin des entreprises. Alors bienvenue, le futur trouve sa valeur chez nous, en bourse et grâce à vous, investisseurs. Les marchés, qu'on suit de près, de l'intérieur, grâce à Aude Kersulec. Depuis la tour Euronext, Aude, bonjour. Comment se portent les indices cet après-midi en Europe ?
Eh bien, coup de mou, hein. Après déjà une séance rouge hier, on a perdu les 8100 points à Paris, hein, il y a quelques minutes. On est à 8090, moins 0,6 points. Et puis, alors que tout Wall Street et tous les marchés même attendent, hein, la publication de Nvidia ce soir, nous, on a notre Nvidia à nous qui ne se porte pas très très bien. C'est Hermès. Hermès dans le luxe, bien sûr, moins 4,3% à 2181 euros. Et je vous explique tout ça pourquoi.
Effectivement, à suivre dans un instant. Nvidia à suivre. Ce soir aussi, on va vous apporter des clés d'anticipation. Les valeurs automobiles un petit peu sous pression, enfin ça dépend lesquelles. Hein. Pour le coup, Renault est en hausse, mais d'autres valeurs en Europe sont sous pression. La crainte d'une hausse des taxes à l'import en Chine, on va en parler notamment avec Thibaut François. Et puis on parlera de Total Energy. Emmanuel Macron met la pression sur Total Energy dans une interview à l'Express. Il demande à Patrick Pouyanné de clarifier son projet américain. Et il apporte plusieurs arguments à Total Energy pour le dissuader de faire de Wall Street sa place de cotation principale. Ben, tout à l'heure, on vous proposera notre petit jeu Total Energy. Ce sera après 17h. Nos invités devront noter, oui, les arguments d'Emmanuel Macron et sur chacun des arguments du président de la République, donner une probabilité qu'il parvienne à convaincre Patrick Pouyanné de changer d'avis sur Wall Street, faire de Wall Street la principale place de cotation. Le grand jeu Total Energy, ce sera donc dans le club tout à l'heure à partir de 17h. Bienvenue à tous, on est à vos côtés, on joue dans votre camp jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Oui, parce qu'il apporte beaucoup d'arguments dans l'Express, le président de la République, pour essayer de dissuader Total Energy de faire de Wall Street sa place principale de cotation. Et ces arguments seront-ils suffisants? Donc nos experts les noteront un à un, les arguments du président de la République, et essaieront de mesurer la probabilité que Patrick Pouyanné change d'avis. Rendez-vous donc à partir de 17h. On évoquait aussi tout à l'heure la campagne présidentielle américaine avec John Plassard, parce qu'on avance dans cette campagne. Si vous avez raté le direct, le replay, bien sûr, est disponible sur notre application BFM Business. Vous nous le disiez, Aude, c'est un milieu de semaine moyen, enfin à l'image d'ailleurs des dernières séances, pas mal de prudence sur les marchés ici en Europe aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, des marchés assez maussades aujourd'hui. Alors on perd 0,6% à Paris, 0,2% du côté de Francfort et aussi 0,6% à Londres. Alors c'est vrai que le chiffre d'inflation britannique est un petit peu plus élevé que prévu ce matin et ça nous a un peu porté préjudice. Mais on a aussi le luxe qui est en berne. Le luxe et notamment Hermès qui perd 4% à 2188 euros. Alors pas d'actu spécifique sur la valeur, mais il y en a une sur Chanel. Chanel, non coté, hein, bien sûr, mais on peut dire que Chanel se rapproche quand même de plus en plus de l'ultra-luxe dans laquelle on peut classer Hermès. Et c'est peut-être pour ça que Hermès est la plus touchée aujourd'hui, hein, sur le marché parisien, parce que les résultats de Chanel sont sortis hier soir et la directrice générale, hein, du côté de Londres nous a indiqué quand même que le marché du luxe était moins porteur, même si les résultats de Chanel étaient quand même excellents et la croissance notamment des ventes à 16%. Cet avertissement de la part de la directrice générale fait peur au marché, puisque donc Hermès dégringole de 4%, LVMH qui perd aussi 2%, Kering moins 1,5%, et puis d'autres valeurs européennes comme Richemont ou Burberry, là aussi mal orientées. Voilà le luxe qui baisse, mais tout de même la tech qui monte, hein, Dassault et ST Microelectronics, dans l'attente de ce qui va se passer à Wall Street ce soir avec la publication tant attendue de Nvidia, on monte donc de 3,5%. 1,5% pour Dassault Systèmes et 1,7% ST Microélectronics, alors que le Nasdaq vient tout juste de repasser dans le vert à New York.
Oui, c'est Nvidia qui va vraiment faire la pluie et le beau temps sans doute sur les marchés en cette fin de semaine. Thibaut François est toujours avec nous en fil rouge depuis Fastea. Rebonjour Thibaut.
Rebonjour Guillaume.
C'est l'autre question aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur notre fil XBFM Bourse et notre fil LinkedIn. Vous pouvez d'ailleurs vous tous continuer de voter. Nvidia ce soir publie ses résultats. À vos yeux, la publication entraînera-t-elle une nouvelle envolée du titre ou au contraire, le titre est-il désormais amené à piétiner, voire pourquoi pas une chute qui pourrait suivre cette publication? Trois options donc, vous êtes déjà nombreux à voter. Vous, comme ça, s'il fallait faire un pari pour ce soir et les prochaines séances d'Nvidia, ce serait lequel, Thibaut?
Bah écoutez, le momentum sur le dossier, il est quand même extrêmement positif. Donc c'est vrai que j'ai plutôt une tendance haussière sur le titre Nvidia. Je pense qu'on n'aura pas un ralentissement de la croissance sera encore très forte. Et je pense que ça devrait être bien accueilli par le marché post-clôture.
Oui, bien accueilli jusqu'à, pourquoi pas, créer une forme d'effet blast sur les marchés. On avait vu que lors du trimestre précédent, la publication d'Nvidia avait eu vraiment un effet global sur les marchés mondiaux. Nvidia, quasiment à lui seul, avait entraîné sur sa publication une hausse du S&P de plus de 2%, par exemple. Vous estimez qu'on est encore dans cette ambiance-là ou que, bah, vu qu'on parle un peu moins, c'est vrai, d'IA depuis quelques semaines, vu que l'IA en bourse marche peut-être de façon moins spectaculaire aussi depuis quelques semaines en bourse, bah, cette fois-ci, l'effet blast sera moindre?
Ouais, l'effet sera moins positif. Effectivement, il y a encore un mois ou deux, on recherchait toutes les sociétés qui pouvaient être touchées par l'IA. Et j'ai bien aimé les commentaires de la Fed dernièrement, qui expliquaient qu'ils attendaient que l'IA puisse montrer au moins 10% des promesses qu'ils vantent. Et j'aime bien cette expression. Donc maintenant, effectivement, il va falloir montrer que l'IA a un impact fort dans les comptes de résultats des entreprises d'un point de vue opérationnel. Mais effectivement, donc on a recherché plutôt des boîtes liées à l'IA ces derniers mois. Et maintenant, on va aussi aller chercher des secteurs qui profitent pleinement de l'IA. Alors aujourd'hui, mais surtout demain. Là, on voit bien d'ailleurs d'un point de vue boursier aujourd'hui sur le CAC 40, on voit bien que c'est Dassault Systèmes et STM qui entraînent le marché et qui tiennent bien dans le marché actuel. Dassault Systèmes prend 3,5% et on a un STM qui prend 2%. On voit bien que la techno est recherchée. Elle a plutôt souffert, notamment en Europe, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je pense que ça va donner un second souffle sur le marché européen et américain et que, à mon avis, Nvidia, effectivement, ne va pas décevoir le marché d'ici ce soir.
Vivatech a démarré là aujourd'hui, BFM Business en est d'ailleurs partenaire, Vivatech à Paris qui réunit justement la crème de la tech mondiale ici juste à côté, c'est porte de Versailles d'ailleurs. Elon Musk sera de passage à Vivatech demain, il sera là, juste à côté de nous Elon Musk effectivement. Est-ce qu'il y a comme ça une pépite française, c'est une question d'un auditeur, une pépite française en bourse dont vous vous dites ben, c'est peut-être une future star de l'IA, une future star de la tech aujourd'hui peut-être sous les radars mais sur laquelle il faut d'ores et déjà miser quand on est investisseur? Est-ce qu'il y en a une comme ça qui ressort pour vous Thibaut?
Écoutez, déjà l'event qui est organisé, effectivement, bravo BFM, c'est quand même génial d'avoir un Elon Musk aujourd'hui, enfin qui arrive sur le salon. Je trouve ça génial pour les investisseurs français, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le patron de X. Franchement, c'est quand même une super nouvelle. Après, nous, on est vraiment orienté sur les marchés actions cotés. Et effectivement, malheureusement, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je vois pas vraiment de pépites à acheter aujourd'hui d'un point de vue IA qui serait coté en bourse. Alors, il y a plein de choses qui gravitent, etc. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à détecter de pure player sur l'IA qui pourrait bénéficier aujourd'hui des plans d'investissement qui sont massifs, que ce soit en Europe, mais surtout aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un domaine, une prédilection, on va dire plutôt américaine. Et j'ose espérer que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous me reposiez la même question et que je puisse vous dire effectivement il y a un Européen qui va sortir et ça sera génial. Mais aujourd'hui malheureusement je suis un peu sec sur la question IA.
Thibaut, vous restez avec nous. On n'en a pas fini avec vous, Thibaut. On a d'autres questions à vous poser. D'abord un nouveau détour par la tour Euronext. Ce regard panoramique sur nos marchés européens grâce à Aude Kersulek. Aude, une autre valeur qu'il faut pas rater aujourd'hui. Il n'y a pas qu'Nvidia, il n'y a pas que la tech, il y a aussi la publication, c'est à Londres, la publication de Marks & Spencer.
Oui, on est dans la distribution et il y en a un Jean Kiplier. Vous connaissez la cantine. On a parlé de Target tout à l'heure avec John Plassard dans USA Today. Target qui a manqué ses attentes pour le premier trimestre qui perd 9% en ce moment à Wall Street. Des Marks & Spencer, c'est tout le contraire. On gagne 6% parce que les résultats annuels, cette fois en plus, donc c'est plus important. Marks & Spencer qui a donc battu les attentes attentes. Bénéfices en hausse de 58% à 716 millions de livres. Et la croissance des ventes, c'est plus 9,4% en comparable. Là aussi, le consensus est battu avec notamment une forte progression dans l'alimentaire. Donc finalement, même avec l'inflation britannique, Marks & Spencer qui s'en sort très bien. Et c'est la plus forte hausse du Stoxx 600 en ce moment, puisqu'on monte donc de 6% à 290 pence. Donc Marks & Spencer qui surpasse un petit peu toutes les autres valeurs. Et puis sur le marché parisien, tiens, j'ai aussi repéré une valeur biotech, un point biotech avec aux immunothérapies thérapeutiques. Là, c'est la plus forte hausse du SRD après avoir annoncé l'extension de son partenariat avec un laboratoire allemand, le laboratoire Boehringer-Ingelheim, et surtout hausse qui va toucher pour ce partenariat un paiement initial de 13,5 millions d'euros. Donc ça va desserrer un peu la pression sur la trésorerie. Ça monte très bien pour cette valeur, c'est toujours très volatile les biotech, mais là on monte de 15% à 8,35 € pour hausse immunothérapeutiques en France.
Effectivement, que vous avez repéré, le CAC 40 est en repli de 0,5%. Le secteur auto est au cœur de la tension aujourd'hui, Thibault. La tension et la tension en deux mots aussi. On a ce communiqué de la chambre chinoise, la chambre de commerce chinoise au sein de l'Union européenne. Elle laisse planer l'idée d'une possible hausse à venir des taxes à l'import sur les véhicules européens en Chine. Certaines valeurs européennes sont sous pression. On est toujours dans cette ambiance de guérilla douanière, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin quand même de tension douanière entre les différents pays. Et malgré la récente visite de Xi Jinping ici en France, de possibles taxes supplémentaires à venir sur nos véhicules européens.
Ouais, exactement, toujours cette tension douanière qui est extrêmement importante. C'est des jeux entre différents pays, mais effectivement ça pèse sur l'ensemble du secteur automobile. Un petit peu contrairement à Nvidia qui est dans un momentum positif, on a quand même le secteur automobile qui est quand même dans un momentum négatif. Un premier trimestre qui s'est pas très bien déroulé. Tous les constructeurs sont ressortis en baisse par rapport à l'année dernière. Alors ils attendent du mieux sur la deuxième partie de l'année, mais effectivement c'est peut-être un caillou dans la chaussure pour l'ensemble du secteur pour les prochaines semaines. Effectivement, si les réservations sont moins importantes et si les exportations sont moins importantes notamment vers les pays chinois, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de remplir les objectifs. Pour l'instant, ils maintiennent les objectifs, mais effectivement, ça peut être un vrai sujet dans les prochaines semaines.
Thibault François, Fastia Capital avec nous régulièrement. Merci beaucoup Thibault. Et Sébastien Féjean aussi avec nous depuis Demicap. Une idée de valeur en plus pour vos portefeuilles, c'est valeur ajoutée. On complète vos idées d'investissement grâce à Sébastien aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Vous êtes à l'achat aujourd'hui sur Mersen. Déjà peut-être, avant de nous expliquer pourquoi vous êtes à l'achat sur ce titre Mersen, on est dans l'univers des mid-cap. Est-ce qu'on peut rappeler ce que fait Mersen dans la vie, l'activité de Mersen?
Oui, alors c'est un peu compliqué. Mersen est à la fois donc fabricant de graphite. Vous savez, le graphite, c'est une pièce essentielle pour fabriquer notamment du silicium, qui est utilisé à la fois dans les semi-conducteurs et dans, par exemple, les panneaux solaires. Mais également, il opère dans la protection électrique où le groupe fabrique des produits comme des fusibles qui peuvent être utilisés par les industriels, dans les énergies renouvelables également, ou encore dans les véhicules électriques.
Pourquoi choisir de nous en parler aujourd'hui, Sébastien?
Parce qu'en fait, Mersen a connu en fait une année 2023 qui a été assez exceptionnelle, avec une croissance organique qui a été très soutenue, un niveau de marge qui a été historique, et également lancé un plan d'investissement très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un peu peur que toute cette belle croissance trouve évidemment un rythme un peu moins fort. Et finalement, on a eu un très bon premier trimestre, malgré un effet de base qui a été très élevé, avec une croissance organique qui s'est quand même, qui est restée à un niveau de plus 5%, ce qui est quand même assez bon, compte tenu encore une fois des bases de comparaison.
Et vous diriez que pour la suite, ce groupe Mersen offre un nouveau profil de croissance?
Oui, parce qu'en fait, on a encore une fois un profil de croissance avec une croissance organique qui a été en moyenne de l'ordre de plus de 10% depuis 2020. Donc on voit que le groupe a vraiment radicalement changé en termes de profil. C'est grâce en fait à un positionnement qui est un peu nouveau, mais bon, ça fait plusieurs années qu'on en parle, dans tout ce qui est semi-conducteur de nouvelle génération, mais également le renouvelable et les véhicules électriques. Et donc tout ça fait qu'effectivement, le groupe qui était un peu industriel il y a encore 10-12 ans est devenu aujourd'hui un groupe beaucoup plus positionné sur, on va dire, les industries de demain.
Du coup, Mersen, ce titre vous semble prometteur, positif, vous nous livrerez dans un instant un objectif de courbe et on est arrivé au bout des arguments ou vous en voyez d'autres susceptibles de convaincre les éventuels sceptiques?
Oui, en fait, on a des objectifs qui ont été communiqués pour 2027 qui sont donc d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,7 milliard. La marge opérationnelle est attendue à 12%, un retour sur capital employé qui devrait être supérieur à 13%. Autant d'éléments qui nous rendent assez confiants sur les perspectives de développement de Mersen.
de cours?
Oui, alors en fait, on a un objectif de cours de 50 euros, hein, qui nous paraît encore une fois raisonnable au regard actuellement de la valorisation du groupe, qui est de l'ordre de à peine 11 fois en PER. Et en valeur d'entreprise sur résultat opérationnel, on est un peu autour de 9%, de 9 fois, pardon, oui. Ce qui reste très raisonnable.
Merci beaucoup, Sébastien Féjean, depuis les bureaux d'IDEMICAP. Une idée en plus, hein, c'est la diversification de portefeuille, bien évidemment. Alors, cette question aujourd'hui, faut-il interdire l'optimisme ou le pessimisme en bourse? Est-il désormais interdit d'être pessimiste pour les marchés? Même... Oui. Pessimisme interdit. C'est le sentiment qu'on a. Sens interdit, là. Non, on n'avait plus le droit d'être pessimiste. C'est terminé. Plus le droit d'être pessimiste. C'est fini. Même les stratèges américains, jusqu'ici les plus pessimistes, deviennent optimistes et révisent leurs objectifs sur les différents indices américains. Incroyable. Est-ce qu'on n'a plus le droit d'être pessimiste aujourd'hui? Tout le monde passe optimiste. Cette question, on l'a posée tout à l'heure à David Crux. C'était dans la Bourse Cash à 15h40. Si vous l'avez raté, le replay est disponible. Vous pouvez le retrouver sur notre application BFM Business. Est-il interdit désormais en bourse d'être pessimiste tant on a de moteurs peut-être encore à venir? Les baisses de taux qui arrivent, l'intelligence artificielle. Bon, et puis les valorisations en Europe qui restent quand même relativement attractives. Donc le replay est disponible sur notre application. Ne le ratez pas. On est en baisse quand même aujourd'hui en Europe. Le CAC 40 perd 0,4% et perd aussi les 8100 points. Oui, on est dessous là. 8097 points pour notre indice parisien.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Les minutes de la Fed ce soir à suivre. Patrice Gautry est avec nous pour anticiper ces minutes, essayer de mesurer leur potentiel impact. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Chef économiste de l'Union Bancaire Privée. Est-ce qu'il faudra les suivre avec autant d'attention que d'habitude ou avec moins d'attention que d'habitude dans la mesure où les membres de la Fed se sont encore exprimés ces derniers jours, si bien que ces minutes pourraient paraître assez datées tout à l'heure?
Oui, on connaît déjà les positions des membres importants donc de la Fed, dont d'ailleurs M. Jérôme Powell, et on a vu qu'on est toujours un petit peu dans le scénario où il faut attendre en fait la confirmation de la tendance de désinflation et aussi peut-être d'autres chiffres de ralentissement du marché de l'emploi pour que la Fed puisse entamer en fait sa baisse de taux d'intérêt directeur. Alors, les minutes, effectivement, ne vont pas amener peut-être de nouvelles, simplement de voir en fait où se situe le centre de gravité des opinions donc des différents gouverneurs et de voir en fait quels sont les arguments qui plaideraient en faveur d'une détente dès le mois de septembre ou d'une détente des taux simplement au mois de décembre, comme l'a évoqué le vice-président de la Fed hier soir.
Effectivement, qui s'est encore exprimé. Bon, les minutes en tout cas à suivre à 20h, on suivra l'éventuel impact. Aujourd'hui, les taux obligataires remontent un tout petit peu après la détente d'hier. On a une petite remontée du 10 ans américain. On lit beaucoup d'articles, notamment ici en France. Patrice, vous êtes en Suisse avec nous, hein, depuis les rives du lac Léman à Genève. Mais en France, beaucoup d'articles sur une baisse de pouvoir d'achat des Européens par rapport aux ménages américains. Les touristes en visite en France et en Europe, les touristes américains viendraient ici désormais comme des princes, tant leurs revenus ont augmenté comparativement aux revenus des ménages européens. C'est une sensation, une impression au doigt mouillé en l'occurrence, ou c'est une réalité économique?
Alors, il y a des différences de croissance qui sont importantes, hein, puisque effectivement l'Europe commence à sortir d'une situation de stagnation qui a quand même duré plusieurs trimestres. Et si on regarde, par exemple, avant même la situation donc de Covid ou de pandémie, on voyait que le revenu réel des ménages progressait à moins de 2% donc en intégralité de la zone euro ou en moyenne dans la zone euro, alors que ça progressait à plus de 2,5% du côté des États-Unis. Donc oui, les revenus progressent beaucoup plus vite et la croissance progresse plus vite aux États-Unis qu'en Europe. Si on prend après les revenus par habitant en termes réels pour essayer et en évitant d'avoir des effets de devises, eh bien on arrive sur des montants, alors ils sont labellisés en dollars, mais l'OCDE est à peu près 45 000 dollars par tête d'habitant. La France arrive à un peu plus de 45 46 000 dollars, les États-Unis sont loin devant à 65 000 dollars. Donc on voit bien que de toute façon, il y a une différence de richesse, une différence de croissance, une différence de revenus. Mais n'oublions pas, attention, ces comparaisons, elles peuvent aussi être utilisées différemment, puisque la Chine est simplement à 18 000 dollars, mais on sait que le nombre de milliardaires en Chine a explosé ces dernières années. Donc oui, il y a une différence de croissance, il y a une différence de revenus, et surtout au sein de l'Europe, il y a des différences effectivement en matière de paupérisation et de risque de rentrer dans une situation donc de pauvreté. C'est documenté par l'Union européenne, c'est documenté, d'ailleurs il y a un très bon rapport du Sénat français sur ce sujet en fin d'année, on peut s'y rapporter. Et en moyenne, en Europe, le risque effectivement d'une population qui rentrerait en situation de pauvreté ou de paupérisation est évalué à 22%. La France, l'Allemagne, l'Irlande se situent, je dirais, plutôt très proches, un peu en dessous de cette moyenne, aux alentours de 20%. Par contre, les pays à problème seraient plutôt du côté de la Grèce, de la Bulgarie, de la Roumanie et un petit peu effectivement de l'Italie, où ce ratio, lui, est un petit peu plus élevé. Donc un risque de paupérisation, oui, ça existe. C'est apparu à partir de la crise de 2008. Et effectivement, les inégalités de croissance entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi au sein de la zone euro, effectivement, peuvent véhiculer ce sentiment.
Oui, et puis le PIB par habitant qui augmente beaucoup plus là désormais aux États-Unis qu'en Europe. On y reviendra. Nos experts mobilisés sont là jusqu'à 18h. Merci beaucoup, Patrice, de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à l'appel de BFM Business comme si souvent. Patrice Gautry, le chef économiste d'Union Bancaire Privée. Wall Street mitigé. En ce moment, on est à quelques heures de la publication d'NVIDIA. Ce titre NVIDIA qu'on suit, il est en petite baisse de 0,2%. Rien de très méchant. Le Nasdaq résiste malgré la baisse d'NVIDIA. Le Nasdaq, lui, est en hausse de 0,1%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on vous apporte des clés pour, grâce à vos actions, vos bonnes actions, surtout vos actions en bourse, pour décarboner le monde. Aujourd'hui, c'est Mathilde Pierre qui va nous accompagner, nous apporter ses clés d'investissement. Elle est analyste et gérante pour Mirova. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Une grande tendance que vous avez choisi d'accompagner, donc l'automatisation et la digitalisation de l'industrie.
Oui, exactement. C'est une tendance qu'on constate de plus en plus forte. Donc, l'automatisation, et la digitalisation des processus industriels est une tendance qui est accélérée aujourd'hui par les événements géopolitiques et la mise en place, la multiplication de mesures protectionnistes à travers le monde, mais également par la prise en compte de plus en plus forte de l'environnement et des enjeux de l'environnement dans les décisions économiques. La logique est assez simple, c'est d'utiliser toutes les technologies existantes d'Internet des objets, de robotique et de logiciels, et de combiner ces solutions de logiciels et ces solutions industrielles pour optimiser la manière dont nous gérons les usines et les chaînes de production. Pour les entreprises, la recherche principale est celle de gain de productivité, qui passera par une optimisation dans la gestion des ressources. On parle de quatrième révolution industrielle, voire d'industrie 4.0, pour vraiment souligner l'ampleur de cette transformation.
L'idée, c'est que l'automatisation permettra de rendre l'industrie moins énergivore et plus compétitive, ce qui nous aidera aussi à attirer l'industrie justement dans nos pays, réindustrialiser nos pays occidentaux. C'est l'autre clé, l'autre conséquence peut-être positive au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique, de cette automatisation de l'industrie.
Exactement, cette recherche de gains de productivité est indispensable dans nos sociétés industrielles où on essaye de reconstruire une industrie compétitive et relocaliser certaines industries clés. Je pense notamment aux industries qui sont cœur de la transition énergétique comme le solaire et les batteries, qu'on aura besoin de développer massivement, donc massivement développer les capacités de production tout en réduisant drastiquement les coûts, et ces gains de productivité tels que ça seront atteints uniquement si on met en place des processus d'automatisation très avancés et qui s'appuieront sur ces nouvelles technologies.
Oui. Vous êtes sur Instagram ou pas ?
Non.
Vous n'y êtes pas ? J'allais vous proposer de passer de la story au réel, la story au réel, des paroles aux actes. Comment est-ce qu'on traduit cette idée, cette thématique d'investissement dans les portefeuilles du coup chez Mirova ? Des exemples de valeurs qui adressent ces deux enjeux, trois enjeux même, automatiser l'industrie, la rendre du coup l'industrie moins énergivore et du coup favoriser grâce au gain de compétitivité la relocalisation. Est-ce qu'il y a des valeurs comme ça qui vous semblent particulièrement bien positionnées ?
Oui, je pense qu'il y a une valeur qu'il faut absolument évoquer qui est Siemens, une valeur allemande très bien connue, mais pas forcément pour cette thématique puisque Siemens a une structure de conglomérat. On connaît sa division mobilité avec son offre sur le rail, on connaît sa filière santé avec Siemens Healthineers, mais Siemens est très bien positionné pour moi pour cette thématique car il s'agit simplement de la plus large entreprise dans le monde en termes de chiffre d'affaires sur le secteur de l'automatisation. Avec une offre particulièrement avancée dans les solutions de logiciels et des logiciels d'ingénierie et de contrôle des automates. Donc Siemens est un bon exemple d'une société industrielle qui a construit à travers le temps, via des investissements en recherche et développement et des acquisitions, une offre digitale vraiment compétitive qui lui permet d'avoir une position dominante. Et également, elle bénéficie de cette base installée dans un secteur en forte croissance, ce qui est très important dans un secteur où la rétention client reste assez relativement élevée.
Première clé, Siemens. Une autre idée d'entreprise dans laquelle vous avez choisi d'investir ?
Oui, alors je voulais parler de Bentley Systems, qui cette fois une entreprise américaine.
Dans l'actualité aujourd'hui.
D'ailleurs. Et voilà, une entreprise d'actualité qui montre bien l'intérêt de Schneider Electric sur Bentley Systems, démontre encore bien cette porosité qu'il y a maintenant entre les secteurs industriels et de logiciels, avec vraiment une volonté de faire converger les deux acteurs, les acteurs digitaux et les acteurs de l'industrie.
Même si finalement Schneider, c'est vrai, était sur le point de racheter, finalement renonce à racheter Bentley.
Oui, finalement, ils ont annoncé ce matin que les discussions avaient fini, ils n'avaient pas abouti à un accord. Peut-être un poisson un peu trop gros ou trop cher pour Schneider, mais ça montre vraiment cette convergence et cette porosité des secteurs. Et les logiciels de Bentley, qui sont des logiciels d'ingénierie, de conception et de simulation, sont des logiciels qui permettent non seulement d'évaluer l'impact environnemental des projets d'infrastructure, parce qu'ils sont spécialisés sur ces projets aux États-Unis, les ponts, les réseaux électriques, mais également tout au long du cycle de vie du produit, d'améliorer la maintenance et d'améliorer la résistance des infrastructures face aux évolutions climatiques. Les logiciels de simulation permettent de tester la résistance d'infrastructures face à des variations extrêmes de température.
Mathilde, Pierre, ces deux idées de valeur, donc Bentley, on est coté
à
New York, effectivement, et Siemens, deux valeurs dans lesquelles vous croyez sur l'automatisation et la digitalisation de l'industrie, pour la rendre plus compétitive, moins énergivore et réindustrialiser nos pays aussi. Voilà, on adresse plein de sujets à la fois à travers cette thématique que vous venez nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Mathilde.
Merci.
Pour Mirova, régulièrement à nos côtés, bon retour. Le CAC 40 est toujours en repli, Wall Street en hausse, là, elle est quasiment... Allez, ça y est, les trois indices américains sont en petite hausse, et ce soir, on suivra Nvidia. La publication dans quelques heures, le compte à rebours est lancé. Doit-on... Allez, ça, c'est le compte à rebours. Doit-on attendre un effet blast sur cette publication comme il y a trois mois? Est-ce qu'Nvidia, sur sa publication, aura un impact global sur les marchés mondiaux? Nvidia, lui seul, avait la dernière fois porté l'ensemble du S&P, entraîné une hausse de l'S&P de plus de 2% grâce à sa seule publication. Est-ce que ce sera encore le cas? On va poser la question à nos experts dans les prochaines minutes. Doit-on s'attendre à un nouvel effet blast? Nvidia, en espagnol, c'est l'envie au sens de la jalousie. Vous savez, être envieux, c'est ça que ça veut dire, Nvidia. Alors, qui parmi les envieux d'Nvidia parviendra à lui damer le pion, à lui prendre à l'avenir le plus de parts de marché? Quelle alternative en bourse dans vos portefeuilles boursiers à Nvidia? Cette question-là, on va aussi la poser dans un instant à nos experts. En tout cas, la publication, c'est ce soir. Impact prévu à 22h20 tout à l'heure. En cas de bonne surprise, le titre pourrait pour la première fois franchir les 1 000 $. Ce sera aussi à surveiller. On en parlera aussi avec la famille dans un instant. C'est la famille BFM Bourse qui va se réunir. Et jusqu'à 17h, on anticipera Nvidia. On reviendra aussi sur Total Energy. Emmanuel Macron met la pression là sur Total Energy pour que Total ne choisisse pas Wall Street comme place de cotation principale. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit, l'ensemble de la famille BFM Bourse, les équipes radio-télé et les équipes web, chaque jour jusqu'à 17h. Jean-Louis Delauro aujourd'hui nous accompagne. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Welcome. Même si l'Europe recule encore et sous-performe une nouvelle fois. C'est la mauvaise habitude du moment. On a une nette sous-performance européenne par rapport à Wall Street. Et encore aujourd'hui, on a des indices américains allés en toute petite hausse ou stable. Bah, le CAC, lui, recule encore. Moins 0,7% cet après-midi, Jean-Louis.
Oui, pas une très très bonne séance. Après, on est vraiment dans l'attentisme. Hein. On est vraiment dans l'attentisme depuis plusieurs jours. Parce que, bien sûr, les deux gros événements, bon, on n'arrête pas d'en parler. Hein. C'est ce soir, c'est les minutes de la Fed et les résultats de Nvidia. On a quand même un élément qui pèse plutôt à la baisse, et d'ailleurs plus sur les marchés européens, c'est que la Chine réfléchit à augmenter ses droits de douane sur les grosses voitures européennes. Je dis les grosses voitures parce que, oui, justement, c'est plutôt les voitures allemandes qui sont visées. Donc ça pèse sur le secteur auto européen, un petit peu moins sur les valeurs françaises, notamment Renault,
qui progresse. Oui,
oui, lui s'en tire un petit peu mieux. On peut
limite, ils en profitent même.
Presque.
Ça, je dis rien. Le titre Renault gagne 1%. Voilà.
Ouais. Donc eux plutôt s'en sortent bien, mais les autres, par contre, c'est un peu la grise mine. Et puis on peut se demander si ça pèse pas sur d'autres secteurs comme le luxe, hein, parce que le luxe, ça fait partie des secteurs les plus visibles, les plus sensibles à des mesures de rétorsion chinoise. Et d'ailleurs, LVMH, Kering et Hermès, hein, ils sont en baisse. Alors c'est aussi parce que Chanel vient de publier des résultats, ils ont indiqué que l'environnement actuel était plus difficile qu'auparavant. Voilà, donc il y a un ensemble de facteurs sur le luxe. Le secteur auto qui n'est pas en grande forme.
Ça pèse un peu.
Et puis peu de volume, hein, très peu de volume. Voilà, hein, tout le monde attend de voir ce qui va se passer ce soir.
Très peu de volume sur les marchés. Alors montez le son, vous tous qui nous suivez dans la famille BFM Bourse. Montez le volume. Romain Daubry nous rejoint. Bourse Direct, le potentiel technique à venir. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver.
Guillaume.
Comment vous le sentez? Comment vous sentez l'état des forces en présence dans les marchés?
Bien, effectivement, vous avez bien décrit la situation sur le luxe et l'automobile qui pèsent et qui font sous-performer nettement le CAC 40. Du côté des marchés dérivés, ce qu'on a observé, c'est que pour cette nouvelle échéance du mois de juin, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais lundi, on est monté mollement et on n'a pas eu de soutien acheteur. Au cours de la baisse d'hier, un tout petit peu de pression baissière sur les futurs. C'est très modeste, il va falloir le confirmer. Et puis ça peut être aussi un peu de prudence en amont effectivement d'un virage de marché que vous avez pas mal déjà annoncé. En revanche, du côté des couvertures dans les portefeuilles, on est quand même très complaisant maintenant. Et on met même sur la volatilité sur le VIX le pied sous un niveau majeur, c'est 12-10. Alors c'est technique, c'est symbolique, mais 12-10, ça veut dire qu'on entre à mon sens en euphorie. C'est une plage qui va de 9,40 à 12,10, donc on est en haut de cette plage d'euphorie, mais c'est la première fois hier soir qu'on a clôturé sous ce niveau de 12,10 depuis janvier 2020. C'est-à-dire qu'on est quand même très, très, très optimiste. Et puis, si on veut voir un autre élément d'optimisme sur le S&P 500, au cours des 14 dernières séances, on a baissé, si on peut le dire, uniquement deux fois. Et je dis si on peut le dire parce qu'il y a une séance de baisse de 0,02%. Donc, on n'a quasiment pas consolidé depuis très longtemps. Donc, on attend ces rendez-vous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme. Pas beaucoup de protection dans les portefeuilles. Et si on reste haussier et constructif à moyen long terme, à court terme, on pourrait assister à un petit retour de volatilité quand même.
Quels sont les seuils du coup qu'il faudra surveiller sur les marchés américains qui sont quand même au plus haut, puis notre CAC 40 qui n'est pas très loin lui aussi de ses records?
Alors si on commence par le CAC 40, on a rompu nous le niveau de 8149 qui était la tentative de sortie par le haut et de réactivation haussière du trading range au sein duquel on évoluait depuis le mois de mars. C'est pas terrible, la cible de cette rupture donne 7974 points, mais on n'accélère pas à la baisse malgré les pressions que vous indiquiez. Sur le S&P, si on regarde le premier niveau d'alerte, c'est 5263, on cote 5320 à l'instant. Donc le niveau de 5317 est un intermédiaire, on est juste au-dessus, et la cible suivante c'est 5371.
Une valeur comme ça, une valeur dont vous vous dites oui, on va parler d'Nvidia bien sûr dans la suite de l'émission sans aucun problème, bien sûr on reviendra aussi sur le luxe plombé par Chanel et puis la Chine dont nous parlait à l'instant Jean-Louis, mais voilà, en se faisant abstraction de l'actualité immédiate et des plus grosses valeurs qui animent cette séance, est-ce qu'il y a une valeur d'un pur point de vue technique qui offre un potentiel intéressant, qui envoie des signaux là pour les investisseurs, Romain?
Mais effectivement, si sur les indices c'est un peu lourd et sur les grosses capitalisations un peu aussi, il y a pas mal d'activités sur les small et mid cap depuis quelques temps, ça s'est vu la semaine dernière, on a vu des choses toujours intéressantes sur Equasens, Aramis ou par exemple Inat Pharma dans un autre registre, mais là je vois un signal intéressant sur une valeur qui est très en retard et qui consolide depuis quelques temps, c'est Big Ben Interactive. Dans les jeux vidéo, Big Ben, eh bien elle a rebondi pour la deuxième fois depuis le mois de septembre, octobre, sur un niveau de support majeur à 2,33. Elle est en train de s'attaquer à la médiane du range 2,33-3,80 qu'elle avait retesté récemment, et la médiane est à 2,90. On est en train de le déborder, ce niveau de 2,90, avec du volume et donc en mire au moins 3,80, ce qui laisse un potentiel de hausse de 25%. Donc 2,90 le niveau stop, 3,80 la première cible graphique de cette possible recovery pour un titre qui est très en retard.
Oui. Possible, hein, c'est quand même un mot important. Possible recovery, bien sûr, vous utilisez tous les termes appropriés de prudence. Merci beaucoup. Big Ben Interactive, donc possible recovery, on suivra tout ça très très près. Notre CAC est en baisse, Wall Street est en petite hausse. Et voici venue la question du jour. Merci Romain, on vous rappellera la clôture des marchés à 17h35. La question du jour donc. Alors notre question, elle a le défaut de ne pas être très originale. Ouais, c'est un vrai défaut. C'est pas une question originale qu'on pose aujourd'hui sur notre fil XBFM Bourse et sur notre fil LinkedIn. En revanche, cette question, elle a une grande qualité. Elle est incontournable. Elle est vraiment incontournable. Notre question du jour concerne en effet Nvidia et sa publication ce soir. Incontournable. Selon vous, le titre va-t-il, après la publication, à nouveau s'envoler, désormais piétiner, ou pourquoi pas chuter? Telles sont les trois options qu'on vous propose dans cette question sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez continuer de répondre. D'ailleurs, bien sûr, on va rebondir sur vos arguments, ceux que vous nous laissez en commentaire tout au long de l'après-midi. Jean-Louis. Alors, alias Madame Soleil, parce que dans la rédaction, on vous appelle Madame Soleil.
Ah bon,
je sais pas. Que fera Nvidia après sa publication?
Non, je me trouve pas toujours très bon en prévision. Mais là, j'ai plutôt envie d'être optimiste quand même pour Nvidia, qui nous a habitués en fait à battre trimestre après trimestre quand même depuis un peu plus d'un an, quasiment systématiquement les attentes. Donc, je pense que c'est possible que ça s'envole. Alors, c'est vrai que les attentes du marché sont énormes. Hein. J'ai regardé ça tout à l'heure, le consensus compilé par Reuters, il tape sur 24,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un trimestre. Alors pour se rendre compte, c'est trois fois plus qu'il y a un an seulement, alors que l'IA générative était déjà là. Oui. Et côté bénéfice par action, c'est encore pire, hein, entre guillemets, c'est que les analystes s'attendent à pratiquement neuf fois plus qu'il y a un an. Donc les attentes sont quand même énormes.
Bénéfice par action multiplié par 9 en un an.
Oui, alors après, le premier trimestre de l'année dernière n'était pas le meilleur pour Nvidia, bon, pour des raisons qui étaient plutôt liées à des éléments exceptionnels. Mais voilà, ça donne quand même une idée de la marche qui est en train de grimper trimestre après trimestre Nvidia. Alors après, moi je pense que Nvidia peut tout à fait battre le consensus, parce que finalement le consensus c'est pas très éloigné de ce que Nvidia avait projeté en début d'année sur ses prévisions. Et puis, ça pourrait se combiner aussi avec les minutes de la Fed. Ben oui, parce que si les minutes de la Fed, sont un petit peu plus...
C'est ce soir à 20h, les minutes de la
Fed.
Ah oui, donc on aura une soirée dense.
On aura une soirée dense. Et puis, de toute façon, on le verra plus tôt, comme c'est après bourse les résultats d'NVIDIA, on le verra plus tôt demain. Ou en pré-open, comme on dit, en post-marché, comme vous voulez. Et donc tout ça, ça pourrait être favorable à une baisse des taux. Hein. Peut-être que les minutes de la Fed vont être un peu interprétées. Donc qui dit baisse des taux, ça veut dire plutôt le secteur tech qui est boosté. Et donc là, Nvidia, bien sûr, qui va en profiter. Donc s'ils font des bons résultats et qu'en plus la Fed plutôt donne des signes de baisse des taux à venir, moi je pense que ça peut décoller, franchement.
Oui. Donc vous votez pour la première option. Après la publication, le titre va s'envoler. Et comme nos auditeurs et téléspectateurs, là vous êtes raccord, complètement aligné. Vous avez voté, vous tous qui nous suivez, à 47% pour un nouvel envol d'NVIDIA à l'issue de la publication ce soir 22h20. Juste derrière, à 35%, vous estimez que le titre va désormais piétiner et vous n'êtes que 18% à penser qu'il va maintenant chuter. Voilà. N'hésitez pas à continuer de voter et nous laisser vos arguments en commentaire. On va rebondir dessus, bien sûr, tout au long de l'après-midi. On a aussi posé cette question tout à l'heure à Thibaut François sur Nvidia, sur son potentiel. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter le titre Nvidia ? Pas du tout. Pas du tout trop tard pour investir dedans. C'est ce qu'il nous disait à 16h. Si vous l'avez raté en direct, le replay est disponible. Ça y est, il est en ligne sur notre application BFM Business. Vous pouvez réécouter l'ensemble de l'argumentaire de Thibaut François. En tout cas, là, le titre Nvidia, à l'instant où on se parle, il est quelle heure à New York ? 10h41. 16h41 ici en France. Le titre Nvidia recule. Moins 0,5% aujourd'hui. Ça n'empêche pas le Nasdaq de progresser aujourd'hui de 0,1%. On a un Nasdaq qui progresse aujourd'hui sans Nvidia. Alors, on verra s'il y parvient aussi après la publication de ce soir. Et puis, une barre importante, une barre symbolique, avec plein de zéros dedans, $1000. Peut-être le titre Nvidia franchira-t-il tout à l'heure pour la première fois les $1000 après cette publication. Ce sera aussi à surveiller. En attendant, Jean-Louis, vous consacrez un article sur notre site BFM Bourse. Alors, à Nvidia demain, on imagine qu'il y en aura un demain.
Oui, Nvidia, voilà. On va suivre ça de très près.
Exactement, mais à chaque jour suffit son bonheur. Aujourd'hui, c'est Total Energy. Vous y consacrez un article, effectivement, parce qu'Emmanuel Macron met la pression sur Patrick Pouyanné, son projet de cotation principale à Wall Street. Emmanuel Macron n'a pas l'air d'accord avec ça.
Non, c'est assez bien dit. En tout cas, vous tournez assez bien les choses. Alors, c'est dans un entretien à l'Express où il parle de beaucoup de choses. Le président de la République a tenté, moi, ce que j'appellerais plutôt un coup de menton au sujet du lieu de cotation de Total. Parce que, assez étrangement, il appelle Total à clarifier ses intentions et il évoque aussi une rumeur. Alors que, non, en fait, on n'est pas du tout là-dedans puisque c'est parfaitement clair. Le patron de Total a été tout à fait clair. Il a même reclarifié encore la semaine dernière les choses. Donc, Total, le groupe pétrolier, envisage une cotation principale à Wall Street, mais il a très clairement indiqué que le siège de Total restera en France et que Total sera toujours coté à Paris. Et puis, l'argumentaire est assez simple. Hein. Total dit, moi j'ai des actionnaires qui sont de plus en plus américains, qui sont de plus en plus nombreux d'outre-Atlantique. Et puis, inversement, mes actionnaires européens, et en particulier français, sont de plus en plus en train de me délaisser, notamment pour des raisons ESG, hein, politiques, environnementales ou autres. Donc la position de Total est claire. C'est sûr que Emmanuel Macron, ça lui ferait pas nécessairement plaisir de voir l'une des plus grosses entreprises françaises aller se coter principalement à Wall Street. Mais bon, il n'y a pas non plus mort d'homme pour les actionnaires, on en avait parlé. On notera que dans le même entretien, Emmanuel Macron, il a tenu à préciser les choses sur un éventuel rachat par une banque étrangère de Société Générale. Ah, on en avait beaucoup parlé. Donc
lui qui avait un peu ouvert la porte, la boîte de Pandore, sans vraiment citer la Société Générale, mais la formulation avait entraîné des spéculations sur le titre Société Générale.
Alors, il ne le dit pas comme ça, mais il s'est un peu laissé embarquer par le journaliste de Bloomberg qui lui posait la question.
Bien joué de la part du journaliste, entre nous.
Qui a fait
en tout cas, ça fait
travail.
Le buzz.
Et donc, il a reprécisé les choses. Là, pour le coup, lui a clarifié sa position. Il a dit non, mais c'est un raisonnement générique. C'est pas sur la Société Générale, ni même sur les banques. Hein, c'est le fait que des entreprises européennes ont le droit de racheter d'autres entreprises européennes pour créer des géants européens, dont acte, comme on dit.
Dont acte, effectivement. En tout cas, donc, cette interview à l'Express qui fait grand bruit autour de la Société Générale et aussi de Total Energy. Emmanuel Macron demande à Total Energy de clarifier son idée de faire de Wall Street sa place principale de cotation. Et il met en avant des arguments, Emmanuel Macron, pour dissuader Patrick Pouyanné de choisir Wall Street. Par exemple, Emmanuel Macron dit dans cette interview, je le cite, quiconque a vécu une cotation aux États-Unis sait que cette opération est 10 fois plus compliquée qu'en France ou en Europe. Quand on observe les marchés sur lesquels opère le groupe et qu'on connaît les risques de contentieux lorsqu'on est coté aux États-Unis, je pense que cela se regarde à 2 fois. Premier avertissement d'Emmanuel Macron. Et puis il met en avant un autre argument. Et on cite à nouveau. C'est Emmanuel Macron qui parle. Géopolitiquement ensuite, être une entreprise française est un avantage incomparable par rapport à une entreprise américaine qui va être prise dans la confrontation avec la Chine en Afrique, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Être français a beaucoup d'atouts. La France accompagne ceux qui croient en la France, pas les autres. Voilà ce que dit aussi Emmanuel Macron. C'est fort quand même, cette interview-là. Ouais.
Alors, l'argument, moi, qui me parle, c'est plutôt les éventuels contentieux avec les autorités américaines. Après, je vous signale que ça n'a pas empêché BNP ou Alstom ou d'autres de tomber sous le coup de la justice américaine pour des raisons qui sont parfois un petit peu...
Tout français qu'il soit, oui.
Détournées, on va dire ça comme ça, par l'utilisation du dollar, etc. Donc en fait, voilà, la puissance de la justice américaine ne s'arrête pas à Wall Street.
Effectivement. Dans un quart d'heure, on vous proposera, c'est une première dans BFM Bourse, le grand jeu Total Energy. Pour écouter attentivement, on demandera à nos experts du club qui participeront à ce club, on parlera des marchés en général, mais sur Total Energy, on leur demandera de noter, de donner une note aux arguments d'Emmanuel Macron. Ces arguments-là qu'on vient de citer, qu'on vient de mettre en avant, par lesquels il espère parvenir à dissuader Patrick Pouyanné de faire de Wall Street la place principale de cotation. Ben voilà, quelle note pour ces arguments, quelle probabilité qu'il parvienne à dissuader Total Energy de choisir Wall Street. Nos experts se mouilleront, ils décerneront des notes, le grand jeu Total Energy, à partir de 17h. Oui, ça vous embouche un coin, Jean-Louis, je sais.
Je vais regarder ça attentivement.
En attendant, 16h46, c'est le bouchitomètre. C'est parti. Chaque jour, un expert de marché vient aussi déconstruire une idée reçue, défaire un consensus un petit peu trop facile à ses yeux en bourse. Aujourd'hui, c'est Thibaut Prébé qui nous accompagne pour la financière Arbevel. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Bienvenue. On est en plein mois de mai, ça se voit pas dehors, mais on est en plein mois de mai. Voilà. Et l'adage boursier dit « Sell in May and go away ». Faut vendre au mois de mai. Voilà ce que dit l'adage. Ben pour vous, pas du tout, cet adage même est bullshit. Vous foudroyez cette idée qu'il faudrait vendre au mois de mai. Et vous la foudroyez d'autant plus en ce mois de mai 2024, Thibault.
Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant. On nous dit toujours en début d'année, cette année, les marchés vont prendre 10. C'est un peu l'objectif qui est donné sur la plupart des sociétés par les brokers comme sur la plupart des marchés. Or, on se retrouve avec tous les marchés qui ont quasiment pris 10 depuis le début de l'année. Et donc, avec ce scénario assez facile de se dire, c'est le moment de sortir, on prend nos bénéfices.
Ah oui.
Et ce n'est pas du tout mon avis.
Oui. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas votre avis? Le marché a bien progressé, c'est vrai. Sell in May and go away. Pourquoi, pour vous, ce n'est pas le moment de vendre?
Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut voir d'où on vient. On vient d'un marché dans lequel on a eu une crise historique en 2022 qui a été la pire globalement sur les portefeuilles. Quand on a eu des choses en 2008 qui étaient moins violentes, avec entre autres une composante obligataire qui avait mieux tenu, on a eu de très nombreuses années de hausse. Donc, quand on voit des indices, certes, qui battent des records, mais qui battent des records après être tout juste revenus au point haut 2 ans après, c'est quand même pas non plus incroyable, alors que les résultats ont continué de progresser. Donc ça, c'est un premier point. Certes, on a un bon début d'année après une bonne année, mais il faut remettre dans son contexte et pas oublier que ça vient après un énorme trou de 2022 qui, sur de nombreuses classes d'actifs, est encore à combler. Et on est très loin sur l'obligataire, sur certains marchés actions.
Oui. Est-ce que, à vos yeux, le marché a néanmoins quand même déjà pricé les baisses de taux? Parce que l'argument de ceux qui pensent que le marché va encore continuer de progresser, de ceux qui pensent qu'il ne faut toujours pas vendre, c'est qu'on a devant nous des baisses de taux. Mais parfois, le marché, il anticipe les baisses de taux. Puis il y a ce phénomène, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Est-ce que ça nous pend pas au nez pour la suite? Un marché qui vendrait la nouvelle quand les premières baisses de taux arriveront?
Alors, c'est un argument qui est très intéressant, qui est oublié deux choses, en fait. C'est évidemment tenir compte du fait que le marché anticipe ce qui est vrai, le fait que les taux vont aller baisser. C'est quelque chose qu'évidemment on voit, c'est quelque chose que tout le monde a en tête, avec des vues qui sont maintenant assez consensuelles sur la capacité de l'Europe à avancer assez rapidement et les États-Unis à être beaucoup plus mous sur ce thème. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui fait driver le marché, c'est les flux. Les flux, ils arrivent au moment où les choses se passent, pas toujours avant. Aujourd'hui, vous avez décidé de placer votre argent sur un fonds monétaire parce qu'il vous rapporte du 4, du 5 selon l'endroit où vous êtes, de quel côté de l'Atlantique. En fait, tant que les taux sont à ce niveau-là, vous êtes bien, vous anticipez pas le fait qu'ils vont plus y être. Et le jour où ces taux baissent, peut-être en Europe un jour, demain il sera, je sais pas moi, à 3 par exemple, ce jour-là ça vous rapporte moins, vous avez peut-être envie de déplacer vos flux. Aujourd'hui on a des flux importants, vers la Chine, vers les small caps, vers beaucoup de marchés qui étaient un peu décotés. On peut penser que plus le monétaire va baisser en attractivité, plus ces flux vont se poursuivre. Et en fait les flux, c'est pas toujours, contrario à ce qui est anticipé, qui est un sentiment, ce qu'on appelle de fast market, des gens qui bougent très vite d'un côté à l'autre. Au contraire, il y a des flux plus lents qui viennent se déverser au fur et à mesure et qu'on commence à revoir venir. Et ces flux-là, bah, ils vont peser jour après jour sur des marchés où parfois il n'y avait que des vendeurs, si un coup il n'y a plus que des acheteurs, il faut trouver du papier et ça pousse heure après heure.
Oui, et ce que vous dites aussi, c'est que on voit évidemment les performances, et on parle depuis tout à l'heure des performances des grands indices, mais il faut regarder aussi sous les grands indices, les courants un peu sous-jacents, sous la surface des marchés, celles que le grand public voit en priorité, et là on voit encore plus peut-être de promesses pour l'avenir, notamment dans l'univers des petites valeurs. Sur, enfin, on en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, mais il se passe des choses aussi dans les petites valeurs qui sont peut-être encourageante sur la dynamique globale à venir en bourse.
Oui, on peut regrouper ça avec la Chine, par exemple. C'est-à-dire le type d'actifs qui était délaissé, qui n'était pas dans les flux, qui est en train de revenir. C'est vrai qu'il faut se rendre compte que sur une quinzaine d'années, le marché, il a ses marottes, ses darlings, comme on dit aux US. On pourrait dire ses Valentines chez nous. À un moment, on parlait que des...
Ça sent le pari, ça. Vous avez fait un pari avec une Valentine, vous avez dit que vous allez la citer.
Pas du
tout. Vous venez de le faire.
Absolument.
Non, ça sent le pari, quand même.
Non,
allez-y,
pas du tout. Pas du tout.
Bonjour à Valentine, je suis sûr qu'elle
ça. Bah, bonjour à Valentine, si vous voulez, quelle qu'elle soit. Le point est que, quand vous avez votre darling, qui était à un moment les small cap, tout le monde achetait ça jusqu'à 2017. Oui. Ensuite, vous avez eu les fonds thématiques. Tout le monde voulait les fonds thématiques, vert, tech en Europe, qui ont très bien marché jusqu'à fin 2020. Et depuis, plus du tout, et au contrario, on veut plus que des ETF large cap. Et donc, tout le monde achète des grandes capitalisations européennes, américaines. Et en fait, on regarde plus tout ce qu'il y a derrière. Et alors évidemment, c'est moins drôle pour les gérants qui avaient l'habitude de voir le CAC 40 sous-performer tous les ans et acheter n'importe quoi d'autre et dire « je suis très fort ». Là, au contrario, avec l'essor du luxe, c'est ça qui a marché. Est-ce qu'au moment où tout le monde est en train de capituler en disant « il faut que des ETF », c'est pas le moment où il y a cette inversion qui se fait et où les marchés qui étaient moins achetés, les marchés des small, vous le disiez, les marchés de la Chine, où tout le monde est en train de dire « maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir que de l'Inde », c'est pas un mouvement qui est en train de se faire. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est vrai que si... Et ce qui est intéressant, c'est que ce marché, il suit aussi le précédent. C'est-à-dire que c'est le moment où, effectivement, sur les grandes valeurs européennes, américaines, on est malgré tout relativement bien valorisé, même si on n'est pas non plus dans des bulles. Bah, il y a un intérêt de l'investisseur à se dire, bah, ça a déjà monté, qu'est-ce qui va monter ensuite? Et à se déverser un peu vers des classes d'actifs qui sont plus en retard et moins valorisées.
Jean-Louis.
Justement, en parlant de marché un petit peu moribond, on est à peu près quoi? 10 mois de décollecte sur les fonds ESG aux États-Unis. La perf en Europe qui est pas terrible par rapport aux Américains. Est-ce que la hype verte en bourse est passée justement, ou est-ce que c'est l'un des secteurs qui sera le plus en renouveau, on va dire, si ce que vous nous dites se confirme?
Ah, c'est un gros sujet, hein. Nous on le voit, on a une expertise sur un fonds vert, notre fonds sustainable, qui a quand même repris qui est peut-être 12% en quelques semaines. Donc dire que la hype est passée, c'est peut-être justement le moment où on fait ces constats, faut des ETF, faut plus ce genre de valeur, que c'est justement en train de s'inverser, parce qu'on est arrivé à des creux de valo sur ces thèmes, contre des pics de valo sur le reste. Ce qui est intéressant, c'est de noter quoi? C'est de noter que il n'y a pas ESG et le reste. Effectivement, il y a la guerre qui nous a fait croire, penser en tout cas que peut-être que la défense c'était important, que si on manquait de pétrole ou de gaz, bah, c'était peut-être pas idiot d'en faire. Et donc on a un peu réhabilité certaines valeurs qui étaient devenues des parias. Mais à côté de ça, il ne faut pas séparer ça de son contexte. C'est-à-dire que des valeurs vertes, c'est quoi? C'est des valeurs qui ont besoin de visibilité pour des projets de très long terme, donc de taux bas. Quand les taux ont beaucoup monté, ça donne pas tellement envie au marché d'acheter ces projets. Et ça, finalement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit ESG ou pas, c'est juste des valeurs taux. De la même manière, bah, quand les chaînes d'approvisionnement étaient difficiles, bah, on avait du mal à monter des projets. Et donc, on a vu bah, beaucoup de projets qui étaient à l'arrêt, et beaucoup d'acteurs, hein, y compris européens, des néo-ennes, des Nordex, qui parfois repoussaient des projets en disant « aujourd'hui, économiquement, c'est compliqué, il vaut mieux attendre un peu ». On se rapproche quand même de taux qui arrêtent de monter, qui se stabilisent, voire qui pourraient rebaisser un peu, plus de visibilité qui sont données. Et donc, voilà, on a un marché qui s'y intéresse un peu plus. On a vu pas mal d'OPA hein, sur le secteur. On a vu des grands acteurs du monde du private equity venir racheter des Encavis ou des sociétés avec parfois des primes de 50%. Donc, vous vous dites, quand certains gens qui sont plutôt pas idiots rachètent avec plus 50% des valeurs et a priori avec l'idée de gagner de l'argent encore dessus, c'est quand même qu'on a atteint des niveaux de décote. Donc, est-ce que la mode de « je veux que du vert, je veux plus de pétrole et d'armement » est passée? Oui. Est-ce que pour autant, on n'est pas allé un peu loin dans ce mouvement? Et on n'est pas désormais dans, quelque part, un intérêt qui revient sur une logique presque value sur ce secteur, qui était auparavant exactement à l'opposé. Peut-être que si. Donc c'est intéressant de voir que, justement, peut-être que ce mouvement où on délaisse arrive dans sa phase de ce qu'on appelait avant le bottom fishing. Je ne connais pas de bottom fishing à saluer. Mais où, justement, on se dit, bah, maintenant, il y a des trucs qui sont hyper en retard et c'est le moment de les ramasser. On est peut-être un peu là-dedans. Donc encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce marché et des points de regain d'intérêt de marché sur certaines zones que beaucoup attendaient. Je pense que c'est pas au bout de 5 ou 10% de correction sur des indices qui sont encore très en dessous de leur plus haut précédent. Vous citiez les petites et moyennes valeurs, mais je pense que la Chine est exactement dans la même logique. Je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour dire qu'il n'y a plus rien à faire dans ce marché en 2024.
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On parlera tout à l'heure dans le club, dans quelques minutes, dans 6 minutes, hein, le club d'NVIDIA. Ça vous dit?
Et Total, j'ai vu que ça vous parlait.
Oui, 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 et Total Energy aussi.
Avec plaisir.
Vous imaginez la vie, n'empêche, vous imaginez la vie sans Nvidia, une poursuite à la hausse des marchés sans une belle publication d'Nvidia ce soir?
Ouais, c'est exactement un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que dans d'autres marchés, on a besoin d'un ressort des choses en retard. On peut pas monter toujours que sur les mêmes valeurs. Beaucoup de valeurs qui avaient amené très haut, d'abord Microsoft, puis Apple, à ces niveaux-là, ont souvent un peu calé ensuite, en se rendant compte que maintenant il fallait d'autres ressorts. On le voit d'ailleurs avec Apple, qui était une des moins bonnes performances de ces top valeurs cette année. Les fondamentaux sont intéressants, le sentiment que la hype sur l'IA est un peu en train de se rabaisser, qu'il y a d'autres acteurs, donc voilà, sans catastrophisme, on peut considérer que le marché peut monter sans Nvidia, mais je finirai là-dessus. Je vous rappelle que les options en termes de volatilité, qui sont très présentes aux États-Unis, nous disent que le mouvement de Nvidia est attendu à plus 8 ou moins 8 aujourd'hui, c'est-à-dire une amplitude de 8%. Ça, c'est une nouvelle donne. Avant, c'est très grosse valeur sur les capis, ça faisait 1 ou 2. Ça fait depuis un an maintenant qu'on s'est habitué à des swings à 10-15% sur les GAFAM. C'est un autre marché, c'est intéressant. Oui. On va scruter ça ce soir à la clôture.
C'est bizarre, quand même, des grosses planètes comme ça, mais qui évoluent comme des bolides.
Enfin, plus de 100 à 200 milliards de bouger d'un côté ou de l'autre, ça fait bizarre.
Incroyable, effectivement. Thibault, vous restez avec nous, il nous reste 3 minutes à passer ensemble en famille. Ça vous dit ?
Yes.
Yes, on poursuit. Parce que c'est le moment du facteur X. Chaque jour, vous savez Jean-Louis, on scrute, on observe toute la communauté financière sur les réseaux sociaux et on essaie de mettre en exergue les postes à forte valeur ajoutée. Et la rédaction de BFM Bourse a repéré, c'est sur X, ce tweet, on dit comme ça, ce poste.
Ce X. je sais plus comment on dit.
Non, comment on dit d'ailleurs ? Slimane Imora, qui a publié ce post, on va le dire comme ça, et qui nous parle du Bitcoin. Le Bitcoin affiche en ce moment, nous dit Slimane, une corrélation au plus haut avec les indices boursiers, notamment le Nasdaq. Et on voit ce graphique d'ailleurs, si vous nous suivez à la radio, BFM Business et aussi de la télévision, on voit ce graphique de corrélation entre le Bitcoin et Nasdaq. Il se trouve qu'actuellement, la corrélation est un plus haut historique. Et depuis un an, on a une corrélation 80% du temps quand même, 80% du temps entre le Bitcoin et Nasdaq. C'est pas si diversifiant que ça le Bitcoin. Genre.
Alors, je nuancerai un peu parce que ça dépend de la période et ça dépend pour qui. Mais c'est un peu un débat qu'il y a depuis des mois. Le Bitcoin, est-ce que c'est une valeur refuge ou une valeur tech? Moi, j'ai envie de vous dire un petit peu des deux pour l'instant. Alors, c'est vrai que le Nasdaq est au plus haut et que le Bitcoin, il est quand même assez proche de ses records, donc ça ferait un peu bizarre pour le mouvement d'une valeur refuge classique. Sauf que, je vous rappelle que l'or, qui est l'ultime valeur refuge, quand même, elle est aussi assez plus haut historique ou quasiment. Alors que le Nasdaq est au plus haut, donc finalement l'or aussi a un comportement qui est un peu étrange pour une valeur refuge. Et puis ensuite, si le Bitcoin se comportait il y a quelques années comme une valeur purement tech, plutôt côté spéculatif et risqué, c'est quand même moins le cas depuis quelques mois. Et je vous donne un exemple. Quand plusieurs banques régionales, vous souvenez, banques régionales américaines ont commencé à faire faillite aux États-Unis, c'était en mars 2023. Le Bitcoin a plutôt grimpé, et comme d'autres valeurs refuges, comme l'or par exemple. Mais inversement, alors ça c'était il y a un peu plus de deux ans, lors du début de la guerre en Ukraine, là le Bitcoin avait plutôt cédé du terrain et dans les mêmes proportions que les bourses. Donc là c'était pas une valeur refuge. Donc en fait, pour l'instant, le Bitcoin navigue un petit peu entre les deux. Moi, je pense que le débat est encore ouvert. Oui. Par contre, certainement que le Bitcoin est une valeur refuge pour certains, dans certains pays où il y a une énorme inflation. On pense à l'Argentine, au Zimbabwe, etc. Ou en Turquie. Parce que là, finalement, vous protégez votre argent de l'inflation et en fait de la politique monétaire de votre État sur laquelle vous n'avez pas de prise. Et donc là, ça a quand même une logique de valeur refuge, mais qui est locale, on va dire.
Exactement. Ça dépend du contexte de chacun, de où on est, dans quel univers socio-politique, économico-financier on évolue aussi, et dans chaque pays c'est différent. C'est une valeur refuge quand même, de votre point de vue? Il est en train de gagner ses galons de valeur refuge ou pas, le Bitcoin, Thibault?
Non, je crois pas. Enfin, je crois que c'est une valeur qui est très qui bouge au fil du temps en fonction de ce que les gens veulent y voir, avec des corrélations qui évoluent très rapidement. Mais comme tout le marché, je vous rappelle qu'on a eu des phases où le Nasdaq ne montait que quand les taux baissaient, puis finalement il s'est envolé en début d'année avec des hausses de taux. Je sais pas ce que ça en dit. Je pense que le Bitcoin est un actif par essence spéculatif, parce que les gens l'achètent parce qu'ils pensent que ça va monter, ce qui est quand même la définition, avec des cas d'usage qui, vous savez, nous séduisent beaucoup dans la blockchain chez Herbevel. Donc voilà, je pense qu'il faut le voir comme un actif spéculatif. Dire que c'est un actif refuge, c'est lui donner une place dans les portefeuilles qui me semblerait un peu élevé, parce que voilà, ce que vous voyez dans votre portefeuille comme refuge, c'est un truc où vous vous dites, s'il y a un drame, ça va être hyper résilient. C'est pas complètement clair que sur le parcours des dernières années, c'est le rôle du Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que c'est un actif qui est haussier sur les dernières années. De dire que c'est un actif refuge, c'est peut-être un terme qui, par rapport à la volatilité de l'engin, est
Effectivement,
abusif. Un peu excessif.
Ouais, effectivement. Peut-être des ETF Ethereum spot à venir. Hein. La SEC est attendue peut-être d'ici demain soir. Feu vert. Ouais, effectivement, un feu vert potentiel. Finalement, hein, quel retournement de la SEC sur les ETF Ethereum spot. Peut-être sous la pression des démocrates et de l'administration Biden d'ailleurs, hein, qui essaie de gagner cette communauté crypto aussi à l'approche de la présidentielle américaine. On a peut-être une bataille politique aussi autour de cette validation des ETF Ethereum spot. Ce sera à suivre, y compris d'ailleurs, bien sûr, dans notre rendez-vous quotidien consacré aux crypto. On vous encourage d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube BFM Crypto. Amaury de Tonquédec et ses experts chaque jour décryptent ce marché. Merci beaucoup la famille. Jean-Louis Deloro. Salut Jean-Louis.
À bientôt.
À demain. Demain ? Non, vous venez pas demain ?
Si, demain. Oui. Demain, je suis là.
Vous êtes là ?
Oui.
Eh ben, nous aussi. Rendez-vous pris demain. Jean-Louis Deloro et les équipes web BFM Bourse. Et cet article d'ailleurs aussi sur notre site BFM Bourse consacré à Schneider Electric qui est en hausse aujourd'hui. Schneider Electric parce que le marché accueille avec philosophie l'abandon du rachat de Bentley Systems. Ce titre donc, Schneider gagne un peu plus d'1%. L'article est en ligne. Vous pouvez tous le consulter. On se retrouve dans une minute avec nos experts du club, parmi lesquels Thibaut Prébé qui va se mouiller. Oui, parce que là, c'était sympa votre truc, mais il va falloir vous mouiller dans la prochaine demi-heure.
J'ai trouvé un peu mou pour l'instant, je prends la suite.
Mouiller. Ah oui, c'était un jeu de mots. Allez, à tout de suite, on est en forme.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Look, math has never been my thing, but admission to Kings Island, plus parking, plus all-day drinks, adds up to a lot more than $49.99 to me, which is why the Fun Plus Sum sale at Kings Island is such an amazing value. For just $49.99, you get admission, free parking, and all-day drinks. Not to mention a day's worth of priceless memories. Go ahead, crunch the numbers yourself. During the Fun Plus Sum sale at Kings Island, you'll be getting way more than what you pay for. But hurry, this offer ends June 30th. Get all the fun and then some at visitkingsisland.com.